Alors, tout le reste de l'été, il va y avoir quelque chose pour les 5 à 12 ans, si je ne me trompe pas, pour massacrer les anges. La lettre aux Romains, chapitre 3, verset 21. Et on va se courber dans un mot de prière ensemble. Encore les enfants, on va fermer les yeux, on va prier. On va demander à Dieu de venir éclairer nos cœurs afin que la vérité de la parole de Dieu puisse venir faire toute son œuvre en nous. Père éternel, nous avons chanté que ton trône est un trône de justice et d'équité. Seigneur Jésus, ton trône est un trône de justice et d'équité. Et quelle justice? La justice de Dieu acquise au prix de ton sang, Seigneur. Je te prie d'être avec ton serviteur ce matin afin que ta parole puisse être claire, Seigneur. Et je te prie, dans ta grâce, de venir parler à nos cœurs, Seigneur, de ce bel évangile, glorieux évangile. Sois avec moi, bénis-nous ensemble, Seigneur. Je m'attends, ô Dieu, à de grandes choses de ta part, car tu es un grand Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Les enfants, vous avez ouvert vos Bibles pour suivre avec moi. La semaine dernière, on a vu ensemble, simplement pour nous remettre dans le contexte, tout le mois de juillet, on fait un survol très rapide de la lettre aux Romains. Cette lettre que William Tyndale a qualifiée du plus pur évangile. Et c'est très volontaire que je survole très rapidement la lettre en 4 messages. On voit ensemble l'argument ou l'idée essentielle de cette lettre. Souvent, les chrétiens, lorsqu'ils la lisent pour la première fois, s'y perdent. Paul est un homme qui avait 1000 idées en même temps. Toutes ses idées se tenaient. Fait qu'il y avait des phrases, des fois, de 14 lignes, d'accord? Et donc, on lit, puis quand tu termines, puis tu arrives au bout, tu dis de quoi il parle. C'est mon intention, ou mon projet, à travers ces 4 messages, de vous aider à saisir l'argument principal de la lettre aux Romains, afin qu'en y retournant, vous puissiez vraiment aller puiser ces richesses qu'il y a. C'est pas pour rien que William Tyndale estimait que tous les chrétiens devraient l'apprendre par cœur. C'est parce qu'on ne finit pas d'épuiser des trésors, d'accord? La semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble en survolant les chapitres 1 à 3, on s'est rendu jusqu'au chapitre 3, verset 20. On a vu une chose assez décourageante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a vu? Tout le monde est pécheur. On a vu ensemble que pour recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, le mot « Évangile » voulant simplement dire « bonne nouvelle », ainsi l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour recevoir la bonne nouvelle, il faut encore sentir qu'on en a besoin. Et donc, il faut connaître la mauvaise nouvelle avant. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Et nous avons vu ensemble que Paul faisait une démonstration brillante et claire que tous les hommes y passent. D'un côté, il y a les hommes qui n'ont jamais reçu la révélation de Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui auraient pu connaître Dieu et le chercher simplement de par la création. Ils auraient pu s'arrêter et prendre conscience qu'il y a un Dieu souverain, infini et invisible qui existe. Et simplement crier et dire « Révèle-toi à moi, toi qui es tellement différent de moi, puisque je suis pécheur. » Mais nous avons vu ensemble que la majorité des hommes ont rejeté ce Dieu et ont décidé de s'inventer des religions, toutes sortes de religions, toutes sortes de religions. Ces gens-là, Dieu les a livrés à eux-mêmes. C'est la pire chose que Dieu peut faire comme châtiment à un homme sur terre. Le livrer à lui-même, à ses propres passions, à ses péchés. T'es égoïste? Vas-y à fond, mon ami. J'essaierai même pas de t'arrêter. T'es méchant? Tu convoites? Tu chicanes? Je te laisse aller à toi-même. Dieu les a livrés à eux-mêmes. Et on voit toutes sortes de choses, d'infamie, d'abomination, toutes sortes de choses scandaleuses qui sont simplement la conséquence du fait que Dieu a livré l'homme à lui-même. Tout simplement. Alors, d'une part, il y a ces gens qui vont vivre dans le péché et qui en sont fiers. Ils s'assument très bien. Dieu les a livrés à eux-mêmes, ils vivent dans le péché et ils s'en glorifient. Les médias en sont remplis. malheureusement. D'autre part, il y a un autre groupe d'individus qui sont pas moins pécheurs. Ils ont reçu la révélation de Dieu, spécialement le peuple juif, par application, j'ai le goût de dire, ceux qui fréquentent des églises chrétiennes aujourd'hui aussi. Nous avons reçu la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui nous a donné un discernement pour être capable de discerner les bonnes des mauvaises choses. Est-ce que cela fait de nous des gens qui ne pêchent plus? Aucunement. Sans la grâce de Dieu, tout ce que ça fait de nous, ce sont des hypocrites si on s'en tient juste à la loi. Des bien-pensants qui ne font pas comme le reste des hommes, en public, mais qui dans leur cœur commettent les mêmes péchés. N'est-ce pas? Convoitant la femme d'un autre, jalousant un autre, étant égoïste, mais on garde ces choses parce qu'on a appris que ça avait de l'air fou de vivre ouvertement dans le péché. Et donc, Paul a démontré que tous les hommes sont pécheurs. Paul l'a résumé avec des phrases qui sont frappantes, des phrases chocs, des phrases difficiles à entendre à celui qui n'a pas été éclairé par l'Esprit de Dieu. Et j'oserais dire, même à nous, parce que nous avons tendance à croire qu'il y a quelque chose dans le fond de nous qui est quand même bon. Mais dans Romains 3, vers la fin de son texte, Paul va citer des passages comme Romains 3, 23, où lui-même va dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Toutes les religions du monde ne sont pas une véritable recherche de Dieu. » C'est ça que Paul est en train de dire ici. « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Aucun qui fasse le bien, malgré toutes les bonnes œuvres, parce que les motifs viennent corrompre tout ça. Des propres justes qui font des bonnes œuvres pour montrer qu'ils sont capables de gagner leur ciel et de satisfaire au jugement de Dieu. Paul a démontré la semaine dernière clairement que tous les hommes sont coupables. Ainsi, tous les hommes sont sous la juste colère de Dieu. La colère de Dieu est juste, elle est sainte. Parce que Dieu ne laisse pas aller le coupable sans le juger, sans le condamner. C'est la triste réalité qui atteint tous les hommes. Maintenant, cette semaine, on se tourne vers la bonne nouvelle. Et j'espère que Dieu a commencé à travailler vos cœurs. Ne serait-ce pour redécouvrir la beauté de l'Évangile. Mais si vous ne connaissez pas personnellement ce Sauveur, j'espère que Dieu a commencé à faire cette œuvre. Et c'est Dieu qui va le faire, c'est l'Esprit-Saint qui va le faire. Il va servir de sa parole, mais vous convaincre que vous êtes pécheur et perdu, que vous êtes condamné sans la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Si ce n'est pas déjà fait, tournez avec moi dans Romains 3, au verset 21. Et je vais vous lire les versets 21 à 26. Mais maintenant, il y a un moment dans l'histoire, il y a une page qui tourne, il y a un temps précis. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Avec la venue de Jésus-Christ, un jour nouveau s'est levé. Un jour merveilleux et glorieux. Qui venait réconcilier toute l'histoire des hommes et toute l'histoire du temps de la patience de Dieu. Avec la venue de Jésus-Christ, Dieu venait manifester sa gloire comme jamais auparavant dans l'histoire. Jamais auparavant. Dieu allait enfin montrer toute sa justice et toute sa gloire. Maintenant, remarquez bien dans le passage, Paul n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de nouveau, comme si Dieu improvisait. Regardez avec moi le verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » La venue de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, n'est pas une improvisation de Dieu. Dieu n'est pas en train de s'adapter à ce monde comme s'il avait perdu le contrôle. Dieu n'est pas là dans son ciel, ayant créé les hommes, et puis il regarde tout ça, puis il dit « Boy, que ça va mal! Faut que je trouve quelque chose de bon. Faut que je trouve quelque chose de bon. » Il n'y a aucune improvisation de la part de Dieu. La venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection ne furent pas une improvisation devant un monde qui allait mal. Dieu n'est pas surpris par le cours des choses. Nous sommes surpris. Nous n'avons pas le contrôle sur notre vie. Chaque jour nous réserve des surprises qui viennent nous bouleverser, qui viennent nous inquiéter, qui viennent nous troubler. Dieu n'est pas ainsi. Ce Dieu invisible, infini, tout-puissant, qui a créé les cieux et la terre, que tous les hommes devaient craindre et chercher, n'a jamais perdu le contrôle. Il a accompli toutes choses parfaitement selon son dessein. L'apôtre Paul, à travers toute la lettre aux Romains, insiste énormément sur le fait que la venue de l'Évangile s'accomplissait selon les desseins de Dieu. Dieu avait planifié les choses comme ça. Ainsi, Dieu avait annoncé depuis fort longtemps, par ses prophètes, dans sa parole, qu'un jour, un Messie viendrait, que ce Sauveur rachèterait des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre, non seulement du peuple juif, on le voit dans l'Ancien Testament, et qu'il le ferait au prix de son sang. Par exemple, Ésaïe, dans un des textes les plus clairs de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, le prophète dit, nous l'avons considéré, parlant de Jésus, écoutez bien cela, longtemps avant la venue de Jésus. Le prophète dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe parlait de la croix. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait, à mon avis. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Paix de quoi? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ce salut, nous dit Paul, cette bonne nouvelle de l'Évangile, est offerte à tous les hommes sans distinction. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Toutes les femmes, tous les enfants sont des créatures de Dieu, et Dieu appelle de toutes les nations de la terre, et l'Évangile est offert à tous, à tous. Tous ont péché, et tous peuvent être gratuitement justifiés. Maintenant, Paul parle ici, et là, je sais qu'il y a différentes versions. Hein. Si vous avez une colonne, vous n'avez peut-être pas eu exactement les mêmes mots que moi. Paul parle de trois termes, et ce matin, on va prendre le temps de s'arrêter ici. Ce matin, je vais rester dans les versets 21 à 26, et ça, c'est mon résumé des chapitres 3 à 5. D'accord? Je vous donnerai un petit conseil à la fin. Mais Paul parle de justification, de rédemption, dépendamment de vos traductions, peut-être qu'il est marqué délivrance. Est-ce qu'il y en a qui ont ça, délivrance? Peut-être, si vous avez une autre version seconde ou la colombe. Et de victime propitiatoire ou moyen d'expiation, c'est possible? Peut-être la colombe, je crois, donne ça comme ça. Justification, rédemption, propitiation. On prend très rarement le temps d'explorer ce passage et dit vraiment de comprendre ce que Paul est en train de nous enseigner ici. Voyez-vous, au chapitre 2, Paul avait déjà parlé du jour du jugement de Dieu. Un jour va venir où Dieu va juger tous les hommes et chacun devront être jugés sur la base de leurs œuvres, rendre compte de leurs œuvres. Les questions du jugement de Dieu un peu partout dans les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises. Ailleurs dans les Écritures, il est parlé de Jésus dans 1 Jean comme notre avocat. Alors imaginez avec moi un peu, s'il vous plaît. Imaginez la scène, d'accord? Imaginez le jour où vous comparaîtrez devant Dieu. Vous allez vous présenter devant Dieu. Et Dieu, comme un juste juge, devra prononcer un jugement sur votre personne. Chacun d'entre vous. Une seule parole qu'il a prononcée. Juste ou injuste? Juste ou injuste? C'est la seule chose qu'il a à dire. J'imagine un petit peu comment ça peut se passer ici, d'accord? Mais on sait une chose, par contre. On sait une chose, c'est que tous les hommes qui se sont retrouvés dans la présence de Dieu ont été saisis d'effroi, saisis de crainte. Et je peux vous assurer qu'au jour où tous les hommes vont se retrouver devant Dieu, personne ne va douter de la justice, de la sainteté de ce juste juge. Personne. La seule présence de Dieu va être toute la confirmation nécessaire que vous êtes en présence d'un être juste, saint, infiniment juste et bon. Sa seule présence. Êtes-vous déjà allé dans une cour? Qui est déjà, s'est déjà présenté en cour? Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons, là. Moi, je suis déjà allé dans une cour, j'accompagnais quelqu'un. C'était pas une grosse cour, c'était quelque chose de tout simple. Je faisais juste accompagner quelqu'un. Mais c'est quand même impressionnant, non? Je veux dire, puis moi, il y avait quoi? Je pense qu'il y avait un gardien de sécurité. Mais t'arrives là, dans la cour, puis il y a monsieur le juge qui arrive, puis lorsqu'il rentre, évidemment, tout le monde doit se lever. Et il y a comme une espèce de mise en scène autour de tout ça qui peut nous donner, qui peut nous amener à être un petit peu cynique, parce qu'on sait que la personne devant nous est pécheur. Et pourtant, il y a quelque chose de très impressionnant. C'est ce qui sort de la bouche de cet homme a force de loi, dans un sens, hein? C'est très impressionnant. Moi, j'ai vraiment été impressionné. C'est un juge. Puis en même temps, t'es devant un être humain. Tu sais que c'est un pécheur. Je veux dire, il a ses bébites. Il est pas parfait. Il peut être un excellent juge, mais c'est un pécheur. Fait que tu relativises un peu tout ça. Et pourtant, ça demeure quand même une expérience impressionnante. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Alors, imaginez un instant comparaître devant Dieu. Et c'est vous qui êtes à la barre des accusés. Maintenant, le juge qui est devant vous a un dossier complet devant lui. 80 ans, 24 heures par jour, 700 000 heures d'enregistrement, pensée, parole, action. Au complet. C'est ce que ce juge a devant lui pour prononcer un jugement. Juste ou injuste. Chacune de vos pensées, chacune de vos actions, chacune de vos paroles, tout ce qu'il y a de plus secret, Jésus a dit dans Luc 12, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Rien. De vos moindres secrets. Ce juge-là les a tous devant lui. Vous ne pourrez pas plaider des circonstances atténuantes, enfance difficile, choses comme ça. Entre vous et moi, votre condamnation est attendue, je vous l'assure. Je connais déjà la réponse. Injuste. Pécheur. Alors imaginez encore que vous êtes devant ce juge qui vous regarde. Il a regardé tout le dossier. Il a besoin de trouver une faute pour vous déclarer injuste. Et vous tremblez de savoir les conséquences du jugement. Les Écritures sont très claires. Séparation éternelle d'avec Dieu, châtiment éternel. Et au dernier instant, au moment où ce juste juge va prononcer son jugement, votre avocat, Jésus-Christ le juste, se lève, s'avance. Et il dit une seule parole. Père, j'ai déjà payé pour lui. J'ai déjà payé. Alors le juste juge qui connaît toute votre vie vous regarde dans les yeux avec un regard de père cette fois-ci. Et il prononce son jugement. Justifié. Justifié. Et il y a tant d'hommes sur la terre et tant de femmes qui ont la folie de vouloir se présenter devant ce juste juge et défendre leur cause eux-mêmes. Vous comprenez? Ils vont se présenter à la barre des accusés sans avocat, sans Christ. Et ils vont avec une arrogance inexplicable face à la mort en disant « Je m'expliquerai avec lui de l'autre côté. Je vais défendre ma cause. » Quelle folie! Quelle arrogance! Et si ce n'était pour l'intervention de Dieu dans ma vie, j'étais de leur nombre et chacun d'entre vous. Arrogant, ne cherchant pas Dieu, ne craignant pas Dieu. Justifié. Je suis encore un pécheur. Il n'y a rien de changé de ce côté-là. Tout ce qui s'est passé, c'est que la justice de Christ, sa vie parfaite et son sacrifice m'ont été imputés. C'est une transaction légale, si je puis dire, qui s'est passée. Mon dossier a été effacé à cause du sien. Je demeure pécheur jusqu'à la fin. Je me demande comment je fais pour aller prêcher le dimanche matin. Tellement je sais combien je suis pécheur et combien je lutte avec le péché. Malheureusement, il y a des gens qui essaient de se présenter devant Dieu sans avocat. Votre seul espoir, c'est Jésus-Christ, d'être déclaré juste. Et c'est ça la justification, l'imputation de la justice de Christ. Paul nous dit ensuite comment cette justice nous est attribuée. Comment ça se fait qu'il est possible que la justice de Christ nous soit attribuée à nous, qu'elle nous soit imputée à nous? Mais c'est par le moyen de la rédemption. Alors si le mot « justification » a été emprunté au monde légal, on a été déclaré juste. Le mot rédemption, lui, vient davantage du milieu commercial. C'est une transaction. Il était utilisé pour désigner le prix qui était payé pour le rachat d'un esclave ou la rançon payée pour faire libérer un prisonnier. Le moyen de la rédemption, c'est le rachat. Il y a un prix qui a été payé pour que tu sois racheté. Dans 1 Timothée 2, les versets 5 et 6, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, vous connaissez la suite, qui s'est donné en rançon, lui-même en rançon pour tous. » Dieu peut déclarer juste celui qui croit en Jésus parce que Jésus a payé le prix de sa libération. Le prix a été payé, c'est ça la rédemption. C'est aussi simple que ça. Nous étions esclaves du péché, nous dit Paul. Nous avons été rachetés à un grand prix pour devenir esclaves de la justice. Rappelez-vous de cela, on va le voir la semaine prochaine. Il y a des implications à ce rachat. Nous avons été rachetés, libérés du péché, mais pour devenir esclaves de la justice. Esclaves et serviteurs de Dieu. Le Père lui-même nous a rachetés au prix du sacrifice de son Fils. Et si nous avons été rachetés, ça ne signifie pas qu'on s'appartient à nous-mêmes maintenant. Au contraire, ça signifie qu'on appartient à Dieu. Ainsi, ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ ont été justifiés par le moyen de la rédemption. Nous sommes déclarés justes parce qu'un prix a été payé. La justification, la rédemption. Maintenant, Paul va un peu plus loin. Et c'est le troisième, honnêtement, qui m'intéresse le plus ce matin. Je pense que les autres, la majorité des chrétiens, les ont saisis. Le troisième, par contre, je crois que c'est le plus difficile à accepter dans notre époque, dans notre société. Et je crois, je m'adresse aux chrétiens dans cette salle, je crois que plusieurs d'entre vous, vous pouvez être mal à l'aise avec cet aspect du salut. Et c'est tellement précieux, tellement important, tellement important. J'ai regardé dans la colombe. Je crois que c'est ça. T'as la colombe, chérie? C'est-tu moyen d'expiation au lieu de victime propitiatoire? C'était-tu ça? Verset 25. Moyen d'expiation, exactement. Et c'est pas faux, d'accord, dans le terme qui est là, il y a l'élément d'expiation, mais si vous avez la colombe, par exemple, allez voir dans le bas, vous allez voir, il y a une note, c'est marqué littéralement « propitiation ». Propitiation. Le terme qui est employé ici est très fréquent dans la Bible, il est régulièrement utilisé. Il parle de l'attitude de Dieu à l'égard des hommes, et il parle aussi de la colère de Dieu. D'accord? Alors, il parle d'une part de l'attitude de Dieu et il parle de la colère de Dieu. On a déjà démontré la semaine dernière que tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Cette colère est juste. Elle est réservée à tous les hommes, car tous ont péché. Maintenant, notre époque a énormément de difficultés avec ça. En fait, je dirais tout l'Occident, depuis l'ère des Lumières, depuis la Renaissance, a beaucoup de difficultés avec ça. Accepter l'idée de la colère de Dieu. Et pourquoi cela? C'est très simple. Parce que les hommes veulent un Dieu bonbon qui n'est ni juste, ni saint. Et on les comprend. Qui voudrait se présenter devant un Dieu juste lorsqu'il est pécheur? Qui voudrait le faire? Si ce n'est celui qui peut invoquer Jésus-Christ le juste comme avocat. Mais les hommes ne veulent pas d'un Dieu juste et saint. Ils vous le diront ouvertement. Tout le monde peut être sauvé. Il n'y a rien qui est de la faute de personne. C'est comme ça qu'on dit ça au Québec. Il n'y a rien qui est de la faute de personne. Vous avez l'affaire Norbeau, c'est évident. Il a eu une enfance difficile. Vous ne trouverez jamais ces millions, mais un peu de rééducation, ça devrait bien aller. Je ne suis pas cynique ici, non. Je ne suis pas cynique du tout. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a aucun sens. Bien sûr que le bien et le mal existent. Et vous voyez, lorsque Hitler se présente devant Dieu, Dieu ne va pas dire à Hitler, « Je le sais, tu as eu une vie difficile, ça nous aide à comprendre bien des choses. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer au purgatoire pour 200 ans, disons. 200 ans au purgatoire. Une fois que tu vas avoir fait tes 200 années au purgatoire, peut-être une libération conditionnelle avec un programme de rééducation, une cinquantaine d'années. Peut-être que d'ici 300-400 ans, tu devrais pouvoir entrer au ciel. Pas ça qui va se passer, croyez-moi. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui va se passer. Si c'était ça qui devait se passer, Christ ne serait pas venu mourir sur la croix pour rien. Il ne serait pas venu mourir sur la croix pour rien. Ça ne fait aucun sens que le bien et le mal n'existent pas, qu'un Dieu juste et saint n'existe pas. Et tous les hommes, un jour, devront comparaître devant ce Dieu saint et juste. Et je pense que la majorité des hommes, s'ils voulaient être honnêtes avec eux-mêmes, accepteraient cette réalité pour Hitler. Le problème survient lorsqu'on réalise que tous les hommes sont pécheurs. On n'a pas tous commis les crimes qu'Hitler a commis. Mais on est tous pécheurs. Et donc, nous devrons tous comparaître devant un Dieu juste et saint. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à s'inventer des dieux. C'est ce que Paul dit dans Romains 1. On s'invente des dieux à notre mesure, à notre échelle. Des dieux qui commettent des péchés eux autres aussi. Qui sont imparfaits eux aussi. Afin de ne pas avoir à comparaître devant la sainteté et la perfection de Dieu. Alors, plutôt que de s'inventer des dieux bonbons qui n'ont aucun jugement, pourquoi ne pas se tourner vers ce Dieu juste, saint et miséricordieux? Parce qu'il est miséricordieux. Qui a envoyé son Fils en sacrifice afin que la colère divine soit détournée de nous. Voyez-vous, la propitiation, c'est exactement ça. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice comme victime propitiatoire, afin que la colère divine, la sainte et juste colère de Dieu, qui était réservée à tous les pécheurs, soit détournée de tous ceux qui croiraient dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la propitiation. Et à partir de ce moment-là, le cœur de Dieu nous est propice. Dieu dépose un regard d'amour, de compassion, d'affection, parce que sa colère a été détournée, parce que sa juste et sainte colère a été détournée. Jésus-Christ, selon les desseins de Dieu, a offert sa vie et versé son sang afin que la colère divine soit détournée de tous ceux qui croiraient en cette offrande, en ce sacrifice. Et cela est d'autant plus merveilleux lorsqu'on prend le temps de réaliser que Christ est Dieu. Que Christ est Dieu, qu'il fait partie de cette sainte Trinité qui a pris cette décision. Jésus-Christ s'est offert volontairement sacrifice. De toute éternité, il était de cette Trinité qui a pris cette décision merveilleuse. Jésus est venu s'offrir lui-même en sacrifice pour nous. Maintenant, ce que Paul fait dans Romains 3, dans des termes qui ont de l'air lourds, qui sont théologiques, d'accord? Ce que Paul fait en parlant de victime propitiatoire, il est en train d'expliquer théologiquement ce que Jésus a vécu à la croix. Il nous aide à comprendre Matthieu 27, 46, le cri d'agonie de Jésus-Christ. C'est ça qui se passe ici. Nous avons l'explication du cri de Jésus-Christ sur la croix alors qu'il s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Toutes les saintes écritures crient la réponse. Parce que tu es devenu péché, mon fils. Parce que tu es devenu péché, mon fils. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le père, le fils séparé, abandonné, c'est quoi tout ça? Et là, il y a des théologiens qui ne veulent pas assumer le texte en disant « Jésus nous parle comment il s'est senti, mais c'est pas vrai, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. » Non, Jésus connaissait intimement le Père. Et à travers tous les évangiles, nous constatons cette intimité. Et le Père révèle au Fils tout ce qu'il fait. Et là, tout d'un coup, à la croix, les perceptions de Jésus ne seraient pas justes. Toutes les Écritures parlent de la sainte colère de Dieu contre le péché. Au moment où Jésus-Christ a pris sur nous, sur lui, nos iniquités, il est devenu péché. Alors voyez-vous ces paroles de Paul ici qui peuvent être loin de nos cœurs. Lorsqu'on lit la lettre aux Romains, ça peut être quelque chose d'intellectuel, des concepts, victime propitiatoire. Bien, pensez au cri de Jésus sur la croix. C'est ça qui s'est passé là. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es devenu péché, mon fils. Parce que tu es devenu péché. Et la colère, la sainte colère de Dieu a été détournée de tous ceux qui croiraient en son sacrifice. Ces choses doivent bouleverser vos cœurs. Dans l'éternité, nous allons contempler l'agneau immolé. Regardez la suite du passage, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Les sacrifices dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas amener le pardon des péchés. Ils préfiguraient un sacrifice parfait qui viendrait. Dites-moi, comment la justice de Dieu pouvait-elle être satisfaite dans l'Ancien Testament alors que les temps n'étaient pas accomplis encore pour que Jésus-Christ vienne mourir sur la croix. Pourtant, Abraham a été déclaré juste par la foi. C'était le temps de la patience de Dieu, où le sacrifice viendrait plus tard, le sacrifice parfait, où Dieu viendrait manifester sa justice devant tout l'univers, manifester la gloire de sa justice. Et c'est de ça qu'il parle ici, lorsqu'il dit « Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, entre guillemets, des pécheurs, celui qui a la foi en Jésus. » Or, tous ceux qui ont la foi en Jésus sont pécheurs. Maintenant, je veux attirer votre attention sur un mot. Afin de montrer sa justice. Et Paul nous rappelle ici ce qu'il y a de plus important dans toutes les Écritures. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour montrer sa gloire. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour magnifier son nom, pour démontrer sa gloire, sa beauté, sa majesté. Maintenant, l'univers est extraordinaire. La terre est merveilleuse et elle manifeste la gloire de Dieu. L'être humain est merveilleux. L'être humain est fantastique comme création de Dieu. C'est ce membre de la création de Dieu. Et il manifeste la gloire de Dieu. Mais l'évangile de Jésus-Christ, la mort sur la croix et la résurrection de Christ, rien dans toute la création de Dieu ne manifeste autant la bonté, la beauté, l'amour, la sainteté, la justice, les perfections de Dieu que l'évangile de Jésus-Christ. Et au moment où Christ est venu mourir sur cette croix, offrir son sang comme victime propitiatoire pour détourner la colère de Dieu, pour nous acquérir la possibilité d'être justifiés, déclarés justes, bien que nous soyons tous des injustes, Dieu faisait éclater sa gloire comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et c'était ça le projet de Dieu. Manifester sa gloire à travers la venue de Dieu le Fils, qui viendrait offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, qui ressusciterait dans la vie, qui serait placé à la droite de Dieu, dans la gloire. Et pour l'éternité, nous allons célébrer l'agneau immolé. Voilà la gloire de Dieu. C'est ça le plus pur évangile. C'est le prix que Christ a payé pour que vous soyez déclarés justes. C'est le prix que Christ a payé pour que vous soyez déclarés enfants de Dieu. Vous qui étiez comme moi, fils et filles du diable. C'est le prix qui a été payé, le prix de rachat pour que vous soyez délivrés de l'esclavage du péché et que vos corps et que vos vies deviennent esclaves de la justice à la gloire de Dieu. C'est le prix qui a été payé pour que la justice de Dieu soit manifestée devant les hommes. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est manifestée la justice de Dieu. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'aimerais vous encourager cette semaine si Dieu a touché vos cœurs. Et volontairement, je suis resté juste sur ce passage-là. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas exposé ce texte le dimanche matin à l'Assemblée. D'après moi, ça fait des années. C'est volontaire si je ne suis pas allé vers le reste du chapitre 4, le reste du chapitre 5. L'argument de Paul, si vous comprenez ça, se suit très, très bien. Alors, si Dieu a touché vos cœurs ce matin, parce que la semaine prochaine, je vais être dans Romains 6. On va commencer à parler de sanctification et de ce que cette justice a comme impact dans nos vies, dans notre quotidien. Si Dieu a touché vos cœurs ce matin, je vous demande cette semaine de prendre le temps de lire le reste du chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. Et je crois que l'argument de Paul va devenir très clair à vos yeux. Paul vient simplement faire la démonstration de tout ce qu'il a dit là. Et vous allez pouvoir dire avec conviction, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de tous ceux que Dieu va placer sur votre route cette semaine. On va prier ensemble avant de louer Dieu. Seigneur, nous avons chanté ce matin que ton trône, Jésus, est un trône de justice et d'équité. Il en est un à cause de ta justice, Seigneur. Et pour qu'un seul d'entre nous, pécheurs, puisse entrer dans la présence de Dieu sans être foudroyé par la sainteté de Dieu. Exterminé et châtié éternellement. Il fallait que la justice de Dieu soit manifestée par la mort de Christ à la croix et par sa résurrection, par ce sacrifice parfait. Père, je veux te supplier. Je veux te supplier, Père, de te révéler à nous. Aide-nous à savourer, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta beauté à travers l'Évangile. Et à celui, Seigneur, dans cette salle qui est obscurci par le péché, qui se donne toutes sortes de dieux à échelle humaine, injuste. Viens, Seigneur, dans ta grâce, car il ne peut le faire par lui-même. Viens dans ta grâce retirer le voile de ses yeux. Viens lui révéler l'Évangile de Jésus-Christ. Et nous te célébrerons ensemble, Seigneur, pour l'éternité. Je te prie pour nos enfants, Seigneur, qui entendent constamment ce message. Ce message pourrait devenir fade si ce n'est de ton esprit, Seigneur, qui vient constamment arroser ces paroles dans leur cœur. Je te prie pour les enfants de cette assemblée qui se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas saisi l'Évangile, Seigneur. Ils ne comprennent pas la réalité d'un Dieu saint, juste, bon et rempli d'amour. Et ils sont allés de par le monde, Seigneur, se donner des dieux fait de main d'homme, de pensée d'homme. Aie pitié d'eux, Seigneur. Va les chercher, ô Dieu. Fais de nous un peuple qui intercède à genoux, convaincu que c'est toi qui sauves, Seigneur. Va chercher nos enfants, Seigneur, je t'en supplie. Et ramène-les à la maison. Et nous te rendrons toute la gloire, Seigneur. Mais déjà, nous voulons te louer. Parce que dans ta grâce, tu es venu nous chercher, alors que nous étions aveuglés par le péché. Sois béni, Jésus-Christ. Sois élevé dans nos cœurs ce matin. Amen.